Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. De 15h à 16h, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va tenter de décrypter la charge mentale des femmes et un petit peu, hein, celle des hommes aussi, même si c'est bien moins fréquent. Si vous êtes en permanence en train de penser à tout, aux courses, au travail, au vaccin du petit dernier, tout ça entre deux, en tentant de prévoir les prochaines vacances et que cela vous pèse sur tout, cette émission va vous intéresser. Pour en parler, nous recevrons le docteur Aurélia Schneider. Elle est psychiatre spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives et elle va nous donner ses meilleurs conseils, ses astuces pour ne plus vous laisser dépasser, pour vous alléger surtout mentalement. Ensuite, comme tous les vendredis, notre chronique bien chez soi dans laquelle on va regarder dans quel état est votre réfrigérateur. Savez-vous à quel rythme il faut le nettoyer? Avec quoi le nettoyer d'ailleurs et pourquoi? C'est un geste important pour votre santé. Nous ferons le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme qui se pose pas mal de questions sur la masturbation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Zoé. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors moi, je connais pas mal de gens qui ont eu des éruptions cutanées suite à un régime cétogène. Je me demandais comment un régime à la mode peut provoquer ce genre de choses. Est-ce que vous auriez une réponse à apporter? Je vous remercie d'avance. Bonne journée.
Alors pour vous répondre très clairement sur ce point précis, nous nous sommes tournés vers le docteur Catherine Lacronière. Elle est médecin nutritionniste à Paris.
Il y a en effet des éruptions cutanées en cas de régime cétogène, on appelle ça le keto rash. On ne sait pas exactement la raison ou les raisons. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des pistes. La première, c'est que le niveau de cétose entretenu par ce régime, puisque c'est bien le but, c'est de fabriquer des corps cétoniques. Les corps cétoniques, en particulier l'acétone, passent dans la transpiration et pourraient provoquer des irritations. Il y a d'autres pistes, c'est quand même un régime assez restrictif, donc il peut y avoir des carences en nutriments, et ces carences peuvent favoriser certaines irritations cutanées. Et puis il y a un changement au niveau du microbiote, votre flore intestinale, qui peut être également à l'origine de cette irritation. Cette éruption peut être assez importante et en plus elle peut être désagréable puisque ça gratte. Elle dure en général quelques semaines et devrait disparaître par elle-même. Ce n'est pas forcément le cas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter et même à aller voir un dermatologue.
Ou à manger du sucre, hein, Jimmy.
Parce que franchement, ça gratte, ça dure quelques semaines, on ne sait pas à quoi c'est dû, c'est pénible.
C'est ça, bon. C'est clair, je crois qu'on va laisser tomber. Alors voilà, c'était le docteur Catherine Lacronière au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, c'est la question de Mathis.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Alors depuis toujours j'ai de la corne aux pieds, j'utilise quotidiennement des roulettes sous la douche ainsi que de la crème, mais là ça commence à devenir réellement pénible, n'arrive pas à marcher sans douleur et du coup j'aurais voulu savoir si vous aviez 2-3 conseils à me donner pour me débarrasser définitivement de cette corne. Merci pour votre réponse et belle émission.
Allez Jimmy, un sujet que vous connaissez bien vous aussi, la corne sous les pieds. Alors on n'est pas tous égaux en la matière, mais c'est quoi la corne précisément? Comment ça se forme et pourquoi finalement?
Alors c'est des zones de la peau qui vont s'épaissir suite à des frottements réguliers en temps normal. Si jamais vous mettez des contraintes très importantes, vous allez avoir une plaie. Et pour éviter d'avoir une plaie, eh bien la peau va réagir et vous allez avoir une prolifération de cellules, c'est des peaux mortes au niveau de l'épiderme, qui vont aboutir à un épaississement et donner cette callosité. Alors cette callosité, elle va avoir une consistance plutôt dure avec une teinte jaunâtre et elle va toucher principalement le côté du pied, souvent la plante du pied ou même le talon.
D'accord. Alors là, il parle carrément de douleur, donc je pense qu'une consultation, pour le coup, s'impose, au moins chez le pédicure podologue. Il va faire quoi, ce professionnel, dans
ce
cas-là?
Alors, en temps normal, la callosité ou la corne ne doit pas être douloureuse, puisque je vous ai dit que c'était des peaux mortes, donc c'est très peu innervé.
C'est pas gros, mais c'est pas grave.
Exactement. En revanche, lorsqu'il y a une douleur, c'est qu'il y a peut-être une petite fissure et donc une infection. La direction de podologue, pour plusieurs raisons. Déjà, le podologue va refaire le point avec vous pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez de la corne au pied. Mélanie, je vous avais dit que vous, c'était à cause de vos chaussures.
C'est ça, les chaussures à talons.
Exactement. On verra après les chaussures à talons. Et puis aussi, il peut imaginer que votre pied n'a pas tout à fait la bonne position avec les pieds en dedans ou en dehors. Et puis, il va aussi parfois prescrire des semelles orthopédiques. Il va faire les soins de pédicure, regarder un peu au niveau des ongles. Et donc, il va faire en quelque sorte l'état des lieux des pieds. Exactement. Et si besoin, vous grattez les callosités qui sont un peu disgracieuses.
Voilà, il a tout l'appareillage qu'il faut pour faire ça. Alors la corne, c'est surtout inesthétique, on l'a dit, mais parfois, on vient de le dire aussi, ça peut s'aggraver avec des crevasses. Vous l'avez dit, c'est attention, il faut soigner ça, mais surtout, je crois, chez les diabétiques.
Oui, car le diabétique a ce qu'on appelle une neuropathie, c'est-à-dire qu'il a une atteinte des petits nerfs, et donc, lorsqu'il va avoir une plaie, normalement vous allez avoir mal, et bien le diabétique n'a pas ce signal de douleur. Or, lorsqu'on a mal, c'est un message d'alerte pour vous faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Ce signal n'existant pas chez le diabétique, la plaie va évoluer tranquillement et aboutir venir vers une surinfection, raison pour laquelle on incite les diabétiques à aller très régulièrement voir le podologue.
Allez, on revient à des cas moins pathologiques, le cas de Mathis. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Vous dites que vous avez des conseils, j'en suis sûr,
pour
prévenir le problème, justement, pour éviter les cas.
Entretien régulier avec des gommages et une bonne hydratation après chaque douche, et on n'oublie pas de se
vous vous massez, vous, comme ça, les pieds tous les jours.
J'adore ça. Et puis, il faut bien sécher les pieds, sinon il y a de mauvaises odeurs qui arrivent. Et puis, vous pouvez aussi poncer la couche de cornée de façon légère, mais pas trop fréquente. L'auditeur disait le faire tous les jours, mais
ça, c'est pas bon.
Oui, parce que vous allez stimuler en quelque sorte la corne et elle va en produire d'autant plus. Essayez d'avoir des chaussures plutôt confortables et larges, adaptées à la forme des pieds. Évitez les sandales en été, c'est une catastrophe. Et aussi les claquettes, il faut vraiment une chaussure fermée. Attention, vous l'avez dit, aux talons hauts. Et puis, si jamais c'est trop fréquent, encore une fois, on insiste, allez voir le podologue, il fera un bilan. Et souvent, il peut vous débarrasser de ces callosités disgracieuses.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer à notre grand dossier du jour. On va décortiquer ensemble ce qu'est véritablement la charge mentale des femmes. On parlera aussi un peu de ces messieurs, promis. Comment en arrive-t-on parfois à ce qu'elles nous pèsent vraiment trop lourd sur le mental? Surtout, que peut-on faire pour souffler, respirer, retrouver un fonctionnement quotidien plus équilibré? Tout ça, c'est dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité du jour pour ce dossier sur la charge mentale. C'est vous, docteur Aurélia Schneider. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychiatre spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives et vous êtes aujourd'hui avec nous parce que vous avez sorti la version illustrée par le dessinateur Museau de votre livre « La charge mentale des femmes ». Et en tout petit, hein, celle des hommes aussi, aux éditions Larousse. Alors expliquez-nous, on va bien définir les choses pour commencer cette émission. Comment on la définit, la charge mentale, quel que soit le sexe qu'elle touche, on va dire?
Oui. Alors la charge mentale, c'est le fait d'être dans un domaine, occupé dans un domaine, et de devoir penser en même temps à ce qui se passe dans un autre domaine. C'est donc la question de la simultanéité et de la coexistence, et vivre deux vies en même temps.
Ou 3, ou 4,
comme une
ou
sorte
5,
de
don
d'ubiquité qu'on aurait miraculeusement. C'est pas la double journée. C'est pas le fait d'être très occupé au boulot et quand on rentre chez soi d'être très occupé. Ça, c'est de toute façon une charge. Mais le mental, c'est l'occupation du cerveau sur une zone qui n'est pas exactement à l'endroit où on se trouve.
Mais du coup, est-ce que les hommes et les femmes ont la même charge mentale puisqu'on a aussi d'autres préoccupations, mais on a parfois l'impression que ça passe un peu au-dessus et donc qu'on se sent moins pressé, moins oppressé par tout ce qui peut graviter autour?
Alors, en fait, on va distinguer, selon moi, la charge mentale domestique qui s'accumule à la charge mentale de travail quand on est une femme et qu'on s'occupe malheureusement encore beaucoup trop de tâches domestiques, et la charge mentale, par exemple, au travail, la charge mentale professionnelle, elle a été décrite. La charge mentale domestique a été décrite dans les années 80 par Monique Ecko, et dans les années 2000, une sociologue, Sylvia Moncholet, a démontré aussi qu'au travail, en entreprise, dans le milieu professionnel, il y avait la possibilité d'être surchargé mentalement par l'accumulation des tâches qui sont à faire de façon fractionnée. Par exemple, vous ne pouvez jamais faire une tâche de A à Z, vous êtes toujours dérangé, vous avez un pop-up, un mail. Et à ce moment-là, vous devez penser à autre chose, alors que vous êtes en train de vous concentrer sur une tâche. Et ça, ça touche les hommes comme les femmes, puisque en entreprise, il y a tout le monde.
Mais les hommes, on parle de la domestique pour le coup, clairement. Ouais. Vous les avez mis en tout petit sur la couverture d'ailleurs, hein, la charge mentale des femmes et des hommes en tout petit. On est d'accord, ils sont quand même beaucoup moins concernés que nous.
Oui, alors sur la charge mentale domestique, encore moins que les femmes là en ce moment, même encore maintenant. Sauf dans certains cas, par exemple, il y a les cas des hommes divorcés qui ont des gardes alternées des enfants.
Bien sûr,
et à ce moment-là, pendant une semaine, ils sont obligés de tout gérer. Et à ce moment-là, c'est pareil, le pédiatre, la babysitter, l'orchestration de tout un
quand
tas
c'est
de...
Quand ce n'est pas maman qui s'en occupe la semaine où elle
oui,
est
oui, alors ça, c'est possible ça aussi.
Alors, est-ce que cette inégalité qu'on peut observer dans la charge mentale, en particulier domestique, elle est liée notamment à l'éducation des enfants, même si depuis quelques années, on pense, en tout cas, on essaye d'éduquer les enfants de la même façon que ce soit
oui,
des garçons,
garçons
des petites filles.
Oui, font des tâches ménagères.
Exactement,
oui,
ils passent le balai, ils rangent,
aussi,
exactement.
Ouais. Mais... Oui, alors ça, c'est la grande avancée. Et je pense qu'on n'a pas encore vu tous les bienfaits.
On n'a pas les fruits encore de ces enfants-là.
On n'a pas
éduqués,
encore les fruits de ces enfants qui sont petits encore maintenant et qui, dans 15-20 ans, seront les jeunes adultes de demain qui partageront les tâches, du moins je l'espère. C'est vrai qu'on est en train de prendre conscience. Mais malheureusement, on est beaucoup, beaucoup soumis encore aux stéréotypes genrés, avec des tâches qui sont plus... enfin, des sports d'extérieur qui sont plus attribués aux garçons. Il faut savoir que un certain nombre de collégiens garçons font du sport à l'extérieur, ce que ne font pas les filles. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage de modèles. Et les petites filles voient les mamans faire beaucoup de choses à la maison, alors que les petits garçons, pas forcément, puisque les phénomènes d'identification sont toujours là. Donc, il va falloir encore bien travailler sur l'éducation des enfants, notamment mettre les petits garçons et les petites filles aux tâches domestiques de la même façon. On peut demander à un garçon, une fille, de faire son lit, de trier son linge, d'appareiller les chaussettes, enfin, vider et remplir un lave-vaisselle.
Bien sûr, bien sûr. Alors c'est marrant, dans votre livre, vous dites que la qualité finalement de vie des femmes était meilleure au Moyen-Âge qu'au XXe siècle. Mmh. Comment on peut expliquer que les mentalités soient devenues si archaïques dans des temps plus modernes, quoi ?
Oui, alors en fait, au Moyen-Âge, les hommes et les femmes, les couples, étaient régis par un droit qui s'appelait coutumier. Et en fait, ce n'était pas la domination paternelle qui est arrivée sous Napoléon avec le Code civil, c'était une éducation conjointe des enfants. C'était une communauté éducative, une communauté aussi de biens. Les femmes, lorsqu'elles avaient un héritage et qu'elles disparaissaient, les biens retournaient à la famille de la femme. Et il y avait moins cette question de possession qui a fini par être celle du Code civil, avec vraiment la domination paternelle et la notion de majorité très tardive des enfants, 25 ans, alors qu'au Moyen-Âge, on était sur des majorités à 14-15 ans. Enfin, oui. Vraiment. Et puis, les acquis aussi de la Révolution, que Napoléon s'est empressé de supprimer, avec le divorce par consentement mutuel qui a disparu. Tout ça a fait... au fur et à mesure du temps, du 19e siècle, de la femme, une mineure. Et en fait, elle était à la maison, elle s'occupait des enfants, mais sous la tutelle exclusive de son mari.
Alors, est-ce qu'avec le confinement, on peut imaginer que la charge mentale des femmes s'est un peu aggravée ? Et comment est-ce qu'on peut détecter justement que cette charge mentale est trop importante ? Est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose,
oui, alors,
et qu'il faut agir ?
Tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez des douleurs du pied qui donnaient l'alerte. Eh bien... Les douleurs qu'on a tous, vous savez, mal à la tête, des
mal
tensions
au dos,
musculaires,
ouais.
Mal au dos, mal au ventre, troubles fonctionnels intestinaux, etc., etc. Tout ça, quand c'est modéré, tout va bien. Le problème, c'est l'installation de façon pérenne, aussi l'intensité, par exemple une fatigue. Tout le monde est un peu fatigué quand on n'a pas bien dormi, mais une fatigue qui dure plus de 15 jours, 3 semaines, qui s'installe vraiment... Des troubles du sommeil, qui sont des troubles du sommeil qui ne sont plus occasionnels, mais qui sont réguliers, doivent nous faire penser qu'on est en situation de mauvaise tolérance de quelque chose. C'est-à-dire que notre corps, il est là pour s'adapter. Il met un petit peu de temps à s'adapter à un mode de vie, quel qu'il soit. On peut partir à l'étranger, avoir un décalage horaire, on va s'adapter. Mais la fatigue qui dure, par exemple, est un signal qu'il faut consulter son médecin pour voir ce qu'il en est de cette fatigue.
Merci à vous, docteur Schneider. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va continuer de vous éclairer sur la charge mentale. On va voir notamment plus en détail pourquoi est-ce qu'elle touche davantage les femmes. Quels sont les fonctionnements profonds en nous qui opèrent, même à notre insu, et qui font que l'on se jette sans même s'en rendre compte dans cette surcharge cérébrale. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Elle est toujours en studio avec nous à nos côtés. Pour notre dossier du jour, c'est vous, docteur Aurélia Schneider. Vous êtes psychiatre et auteur du livre « La charge mentale des femmes et celle des hommes » aux éditions Larousse. Alors docteur, dans votre bouquin, vous parlez de la théorie de l'iceberg. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le rapport avec la charge mentale ? C'est pas en rapport avec le Titanic, on est d'accord. Hein,
non, on est d'accord. Alors, je suis partie d'une petite hypothèse personnelle en disant que les femmes comptaient. Les femmes comptaient tout le temps, tout un tas de choses, beaucoup plus que les hommes. Moi, je le vois en consultation, les hommes et les femmes n'ont pas la même façon de compter et de gérer leur temps. Eh bien, je me suis dit, y a-t-il un rapport entre cette surcharge mentale du comptage que les femmes ont ? Et on le voit bien, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Les femmes comptent, par exemple, elles comptent tout ce qui est en rapport avec la génitalité, enfin c'est le côté les règles par exemple, il est hors de question d'aller faire un trekking si on a des règles abondantes. On ne pourra pas se changer. Le syndrome prémenstruel. Et puis, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Et donc, ça, ce sont des comptages qui sont macro. Les femmes connaissent parfaitement leur cycle, etc. Le comptage micro, dont elles ne se rendent absolument pas compte, c'est toute l'orchestration de l'ovulation, par exemple. On a des pulsations hormonales, à certains moments d'ailleurs, toutes les 90 minutes, toutes les 60 minutes, pour régler cette horloge incroyable de l'ovulation. Mmh. Et ça dure 40 ans, quand même, mine de rien. Ça laisse une empreinte. Et ce comptage est complètement à l'insu des femmes. Et bien en fait, je me suis demandé, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait, depuis que j'ai fait un diplôme de chronobiologie, je me suis dit, mais c'est quand même dingue cette histoire de comptage. Mmh. Et je trouve que les femmes sont quand même spécialement amenées à se questionner en permanence sur le temps. Les hommes ne font pas comme ça et les hommes n'ont pas ce comptage de l'ovulation.
Oui, pas de comptage de l'ovulation parce qu'ils n'ont peut-être pas d'ovule. Mais bon.
Non.
Finalement, la question c'est que derrière, les femmes en fait, elles anticipent en permanence. Oui. Et donc en fait, anticiper c'est censé être une qualité, mais là ça se retourne contre elles en quelque sorte, ça devient une source de préoccupation et d'anxiété.
Oui, alors vous avez raison. C'est une qualité, l'anticipation.
C'est mis en valeur dans les entretiens d'embauche,
tout
ces choses-là.
Tout à fait. Et franchement, c'est une richesse. Maintenant, le gros problème de la charge mentale, c'est que ces richesses, quand elles sont poussées à l'extrême, deviennent un peu des poisons. Parce que si on passe sa vie à anticiper tout ce qui pourrait se passer, on n'en finit pas. Et la vie est pleine d'imprévus. Et si on doit gérer une famille, si on doit gérer un boulot, si on doit gérer des animaux domestiques en plus, et des parents, des grands-parents, être aidant, enfin, tout ce qui fait nos vies très occupées, l'anticipation se transforme en cauchemar.
Anticipation anxieuse, quoi.
Oui,
c'est ça, et là, elle est négative.
Anxieuse. Et à ce moment-là, on est tout le temps en train de s'inquiéter de ce qui va se passer dans le futur, à prendre des précautions. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que la vie elle-même nous amène aussi à modifier nos anticipations parce que ça ne se passe pas toujours comme prévu.
Ce qui nous rend vulnérables, nous aussi, les femmes, peut-être plus que les hommes, face à cette charge mentale, c'est ce trait de caractère assez fréquent dans la population féminine, le perfectionnisme. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'hommes qui le soient aussi, mais à partir de quand on considère là aussi que c'est pas un défaut, mais que c'est trop, en fait, justement ?
C'est pareil, c'est la même chose,
oui,
c'est une richesse
qualité,
de faire bien les choses, d'aller à fond. Sauf si ça se transforme en dictature.
Par exemple, vous avez des patientes comme ça, qui étaient perfectionnistes
à
des points.
Ah oui, bien sûr, ouais. Aussi bien sur le plan domestique que sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, par exemple, ça touche les hommes et les femmes, mais on doit faire une présentation. On a des diapositives, slides, peu importe. Et on a des polices de caractère qui, malheureusement, ne se sont pas bien mises sur les... Voilà, il y a des petites erreurs. Est-ce qu'on se couche à 2h du matin pour tout refaire ? Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Pour une réunion très importante, oui, mais les réunions qu'on a souvent dans le boulot, présentation interne. Voilà. Et le perfectionnisme, à un moment, doit trouver une limite. On doit s'arrêter. On doit se dire non, j'ai plus intérêt à aller dormir qu'à refaire toute ma présentation pour la énième fois pour que ce soit parfait.
Alors, on peut comprendre que ce perfectionnisme peut empoisonner la vie, justement, de ces femmes ou de ces hommes. Mais est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur les enfants, même de façon involontaire, notamment dans l'éducation ?
Oui, bien sûr. Le perfectionnisme touche aussi l'éducation des enfants. Petite note par rapport au confinement. Je crois que pas mal de familles se sont rendues compte avec le fait de prendre du temps ensemble, retrouver les jeux de société et la vie de famille. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses à l'extérieur, que les enfants étaient beaucoup trop à l'extérieur, en train de faire des tas d'activités. Et dans mes patients, il y a eu des prises de conscience avec des discours du style « Bon, eh bien, on va maintenant limiter à une activité par enfant. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'on va être plus souvent ensemble. Alors, ok, il y a des choses importantes à faire, mais est-ce qu'il faut pousser loin, très loin, l'éducation d'un enfant, faire des choses qui nécessitent une perfection, par exemple l'apprentissage de la musique, par exemple. Et oui, c'est extra d'être persévérant, mais attention, les enfants sont aussi sous pression.
Ils peuvent souffrir de charge mentale. Il y a aussi le piège de la comparaison qui peut alourdir la charge mentale. Dans le livre, vous racontez le cas de Flore, chez qui clairement ça a gâché la vie.
Oui, alors c'est Flore, c'est en fait beaucoup de patientes et c'est aussi beaucoup d'entre nous parce que elle regarde les autres mamans du groupe de mamans. Alors elle a 3 enfants. Donc elle regarde les mamans des trois groupes d'enfants. Et en fait, les qualités de chaque mère, elle voudrait les avoir. Et elle se dit, ah ouais, elle fait ça. Ah, c'est vachement bien. Ah oui, elle fait ça. Mais on ne peut pas être tous ces personnages. Donc oui, la comparaison, c'est attention. Regardez comment fonctionnent les autres. C'est intéressant. Observez ce qui nous plaît chez l'autre. C'est
pas
tout
pour
à fait
se dénigrer,
instructif. Mais attention, nous aussi, on fait d'autres choses et c'est différent. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent.
Dans ce piège de comparaison, on peut imaginer que les réseaux sociaux vont agir un peu comme starter dans ce rôle un peu toxique de comparaison.
Ouais, vous avez tout à fait raison de le signaler. Les réseaux sociaux, c'est très bien, jusqu'à une certaine limite.
Il y en a des mamans parfaites sur les réseaux sociaux.
Oui, et alors voilà, ouais, c'est exactement ça.
La musculation qu'elles ont faite le matin, le yaourt au quinoa.
Oui, alors c'est exactement ça. Je crois qu'il faut... Merci de le signaler, parce que vos auditrices, vos auditeurs vont vraiment percuter là-dessus. Attention, ce sont des tranches de vie. Ce sont des personnes qui postent quelque chose que l'on voit à un instant T. Ça n'est pas comme ça, toujours la maison, l'appartement, le couple idéal. Non.
Chez eux aussi, deux heures après, c'est le bazar. Oui,
c'est le bazar où ça gueule un peu. Enfin, attention, ce sont des tranches de vie. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Quand la charge mentale est trop lourde, on les fuir un peu, ces réseaux.
Oui, surtout, ne perdons pas de temps avec ça.
Très bien. Docteur Schneider, ne bougez pas, on va continuer dans un instant.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient très vite et on va poursuivre cet éclairage complet sur la charge mentale. On va passer aux conseils, vraiment, pour la réduire. On va vous donner notamment la règle des 8 R qui permet, vous allez voir, de tout mieux gérer sans surcharger son cerveau. On va vous préciser bien sûr ce que sont les 8 R. Restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Aurélia Schneider. Je rappelle que vous êtes psychiatre et qu'on décrypte avec vous la charge mentale aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a compris d'où elle vient, cette charge mentale, on va voir avec vous quelques solutions pour la prendre en charge, la soulager, aller mieux, quoi. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre de la règle des 8 R. R comme la lettre R, bien sûr. Alors, on n'aura pas le temps de détailler les 8. Mais il y a le premier R, c'est prendre du recul. Donc, le R pour recul. Vous donnez un tips, une astuce un peu surprenante, c'est de faire une did list. On connaît la to-do list, mais la did list, c'est quoi ?
La did list, c'est tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait dans une journée, par exemple, du matin au soir. On est très, très surpris quand on comptabilise que le matin, on a commencé par déjà étendre une machine ou faire 3-4 coups de fil, des mails. Enfin, tout ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait en une journée.
Ça valorise, en fait.
Et en fait, non seulement ça valorise, mais ça permet de voir que c'est énorme. Essayez pour voir pendant 3 jours de suite.
Celle qui est des trucs à faire, vaut mieux celle qu'on a quoi, c'est ça.
Oui, bien sûr.
C'est pas mal ça. Et pour mieux vous s'organiser, vous conseillez aussi un autre truc, le test de décentration du temps. De quoi s'agit-il ?
Ah, ça c'est mon préféré. C'est la hiérarchisation des activités. Quand on ne sait pas ce qui est important, ce qu'il faut garder. Parce que dans une did list, il y a tout. Mais regardons dans une did list, par exemple, les urgences, les vraies urgences dans une semaine. Pendant une semaine, finalement, il n'y a pas tant d'urgences que ça. Et dans une journée, c'est pareil. Donc, comment hiérarchiser ? Comment ne pas mettre au même niveau le choix d'un légume pour le dîner et le fait d'aller refaire son passeport parce qu'on part en voyage ? Bientôt, on repartira en voyage.
Oui, on espère.
Et donc, voilà. Et donc, la hiérarchisation, c'est la question à se poser de décentration dans le temps. Quelle importance cet événement aura dans 5 ans ? Vous prenez le jour d'aujourd'hui et vous le mettez dans 5 ans. Vous dites, je ne sais pas quoi, moi par exemple...
Choisir les tomates ou les poireaux, est-ce que finalement dans 5 ans ça aura une importance ?
Voilà,
alors que...
est-ce que je me souviendrai de ça ?
Oui, est-ce que je me souviendrai de ça
et
dans
5
ans ?
Et en fait, est-ce que je me souviendrai d'avoir choisi des poireaux ou des tomates en me brossant les dents le matin dans 5 ans, le même jour ?
C'est pas mal,
alors là, généralement, la réponse est non. Mais si la réponse est oui,
c'est que c'est important,
allez-y.
C'est une urgence.
C'est hyper important. Faites votre choix, mettez du temps à choisir les poireaux ou les tomates.
Super astuce. Il y a aussi le test, alors moi celui-là je l'adore vraiment, c'est le test de l'épitaphe avec une histoire de lave-vaisselle, expliquez-nous.
Oui, alors ça c'est pour les récalcitrants de la décentration dans le temps. C'est-à-dire que quand ça ne suffit pas de se dire dans 5 ans, je pose la question à mes patients, je leur dis mais est-ce que ça vaut le coup d'être le gars ou la fille du cimetière qui a le plus épluché de pommes de terre par exemple.
Sur sa tombe écrit.
Voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire soi-même tout est-ce qu'on ne peut pas s'offrir
si
de faire
Mélanie
une purée
Gomez qui mettait toujours rangé, toujours bien le lave-vaisselle.
Oui, voilà, alors le lave-vaisselle, c'est l'histoire du lave-vaisselle. Est-ce que ça vaut le coup de vous réveiller le soir pour re-ranger le lave-vaisselle après ?
Parce que mon mari l'a mal rangé.
Votre mari qui l'a mal rangé. Ou est-ce que vaut mieux dormir ? Est-ce que vous allez vous dire, voilà. Et quand vous passez dans un cimetière, et si vous voyez sur une tombe, alors celui-là, c'est le mec ou c'est la fille du cimetière qui a le mieux rangé son lave-vaisselle, vous vous posez la question en vous disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi,
de ranger de la vaisselle? Non, on va le laisser.
Voilà.
Alors, un autre R pour recalculer sa gestion du temps, c'est-à-dire que celle dont la charge mentale devient menaçante, eh bien, la relation du temps est déformée. Quel conseil vous pouvez donner pour arranger ça?
Oui, alors, en fait, on est souvent en train de penser, chez beaucoup de mes patients anxieux qui gèrent mal leur temps, qu'on va faire les choses beaucoup plus rapidement qu'on imagine. Par exemple, je vais faire un gâteau au chocolat, ça va me prendre
10 minutes.
Ouais. Mais calculer du début à la fin, ça prend beaucoup plus de temps que ça, surtout si vous voulez le démouler. C'est ce qui est arrivé à une de mes patientes, qui s'était levée tôt, l'anniversaire de sa fille, pour le gâteau, pour l'école, etc. Et en fait, elle n'a pas compté le temps du refroidissement du gâteau. Tout le gâteau est resté au fond du moule. Ça a été un drame. La petite fille complètement en pleurs, la maman hyper énervée qui avait commencé par gâcher sa journée. Et en fait, la question du temps réel que l'on met à faire quelque chose par rapport au temps estimé. Gâteau au chocolat, 10 minutes, temps estimé. Temps réel, 30. Ben, en fait, il faut multiplier par 3. Et si on s'amuse à regarder un petit peu quel est notre facteur temps réel estimé, on va s'apercevoir qu'en général, il faut multiplier par 2. Et si on multiplie tout par 2, curieusement et miraculeusement,
on va être moins sous tension, moins surchargé.
Moins surchargé, ouais. Parce que beaucoup plus l'impression d'avoir le temps.
Dans les 8 R, il y a aussi le R de rectifier le tir, c'est-à-dire par exemple juste parler de sa situation avec les autres, se rassurer en se reliant, c'est-à-dire, mais on se relie à qui? Moi, je vous ai raconté mon histoire de lave-vaisselle quand vous arriviez, justement.
Oui.
Je me suis un peu déchargée de ça et mais on a ri ensemble, ça fait du bien.
Mais oui, ça fait du bien, se relier aux autres. Alors, on a cruellement souffert pendant ce confinement de ne pas se relier en touchant les autres, en étant avec eux. Mais se relier aux autres, c'est faire partie d'une communauté.
Et de parler de sa charge mentale, c'est ça ? Ouais.
De parler de ce que l'on vit, de parler des soucis que l'on rencontre.
De tout ce qu'on n'arrive pas à gérer.
Par exemple, moi je conseille de se réunir, notamment entre femmes, les dîners de filles, enfin on appelle ça comme ça, mais ça peut être un déjeuner, ça peut être... Aujourd'hui on ne peut pas se voir à beaucoup, mais simplement à deux. Soyons, déjeunons ensemble, tout ça est possible et nous relie aux autres et est un facteur de descente en flèche de la charge mentale.
Alors vous proposez aussi d'être un peu plus flexible et vous donnez un exemple assez mignon, la métaphore du gilet, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, alors ça fait partie de ce que l'on appelle les schémas de fonctionnement profonds. Quand on est enfant, en général, à l'occasion du discours familial ou d'expériences qu'on a vécues à l'école, nous-mêmes, enfin, peu importe, on construit comme des petites armures, des petits diktats. Il ne faut jamais se laisser abattre, il faut faire les choses pénibles avant les choses faciles, enfin des trucs comme ça ou des dictons. Et j'appelle ça le petit gilet parce que je dis quand on est petit, on s'est fabriqué un petit gilet. Et puis ce petit gilet, il nous a servi à avoir chaud quand on était dans une atmosphère un peu froide. Il nous a protégés. Toutes nos phrases nous ont protégés. Et puis, en grandissant, ce gilet devient trop petit.
On y est accroché.
Mais on y est accroché. Et on ne veut pas le lâcher. Et en fait, il faut fabriquer un autre gilet. Alors, il faut bien garder les boutons si on est attaché à des choses de l'enfance. Mais tous ces principes un peu rigides, tout ce que l'on a appris, qui nous a formés, mais qui, une fois qu'on est adulte, est un peu caduque, mériterait d'être plus flexible, eh bien, il faut le transformer. Il faut accepter de retailler un nouveau gilet.
Un autre des 8 R, c'est le R de retrouver le calme, respirer, pour être plus zen, pour se reposer. Vous avez une astuce, pratiquer la poupée de chiffon, c'est quoi ?
La poupée de chiffon, c'est s'installer bien vautré sur son siège, les pieds à plat, les bras le long du corps, mettre sa tête un petit peu de côté et puis respirer tranquillement et ne plus bouger. Si on vous prend la main, elle retombe lourdement. Ça prend quelques instants, extrêmement efficace à faire plusieurs fois par jour. Alors évidemment, en général, il vaut mieux le faire quand on est tout seul dans son bureau parce qu'on est un petit peu pas tout à fait droit. Mais ça fait beaucoup de bien, on se détend complètement.
Un dernier R pour réconfort et vous parlez d'un certain cahier du bonheur, attirer le positif. C'est important à ce point, notamment pour faire baisser sa charge mentale.
Oui, complètement. On a tendance à se faire beaucoup de reproches quand on est en surcharge mentale. On n'est jamais content, on l'a dit. Eh bien, quand les autres vous font des compliments, quand les autres vous disent « Tiens, ton truc, c'est super », au lieu de répondre « Oh non, c'est normal, oh là là, si tu savais, j'aurais pu faire mieux », eh bien, on note le compliment que l'on a reçu sur ce petit carnet, avec la date et avec l'auteur du compliment. Alors en général, c'est un exercice hyper dur à faire, ça a l'air de rien comme ça. Mes patients mettent plusieurs semaines à me le faire, parce que je demande de voir le carnet, forcément. Mais on peut le faire, ce petit carnet. Et on prend un tout petit support, hyper utile, hyper gratifiant, très bon pour l'estime de soi.
Même si ça fait 25 ans qu'on souffre de charge mentale et que c'est donc madame qui fait tout, parce que c'est souvent le cas, est-ce que si elle s'en rend compte, ben, il n'est pas trop tard pour changer les choses à la maison? Est-ce que vous avez 2-3 astuces?
Ben oui, moi je pense qu'on peut demander à partager des tâches. Moi, ce qui est important...
Même quand ça n'a jamais été fait avant?
Oui, bien sûr, il y a des toutes petites tâches que l'on peut partager. On peut... Alors, on peut d'abord déléguer, on peut demander à l'autre de faire des courses, on aura fait la liste. Quelqu'un qui ne participe absolument pas pourra aller faire une course et ce sera déjà ça de moins à faire. Mais il y a des tâches qui peuvent tout à fait se partager et ne pas en entendre parler. Ça peut être une tâche administrative, par exemple, ou ça peut être une tâche ménagère très simple. Je crois que l'important, c'est la participation de chacun à une tâche précise.
Merci beaucoup, docteur Schneider, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « La charge mentale des femmes et celle des hommes » aux éditions Larousse. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique du vendredi, bien chez soi, on va fouiller, enfin on va plutôt vous aider à bien nettoyer, bien entretenir votre réfrigérateur. Et oui, il sert quand même à conserver ce que vous allez manger, donc c'est un geste santé important. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de passer à notre chronique Bien chez soi. Ce vendredi, on va scruter l'hygiène de votre frigo. À quel rythme faut-il le nettoyer? Comment procéder d'ailleurs? Avec quels produits? Pourquoi c'est un geste important pour notre santé? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Pour bien nettoyer son réfrigérateur, déjà on sort tout ce qu'il y a dedans.
On le vide.
Il faut bien sûr le débrancher.
Moi personnellement, je nettoie avec de l'eau et du vinaigre blanc.
Un peu de vinaigre, un peu de bicarbonate, séparément bien sûr.
Avec un produit spécial, je pense, enfin spécial, pas frigo, mais un produit ménager.
Après, je pense qu'il ne faut pas que ce produit soit trop agressif et essayer de privilégier les produits naturels. Moi je pense qu'il faut nettoyer son réfrigérateur au moins une fois par mois.
À partir du moment où ça commence à sentir.
Je le nettoie une fois par semaine à fond. Mon réfrigérateur, je mets en bas, donc dans le tiroir, ça va être tous les légumes. Tout en haut, je mets les produits laitiers, enfin les yaourts.
Ce qui sent le plus mauvais en haut, parce que l'odeur monte. Et donc ça s'imprègne pas dans les aliments du bas.
Et après, le reste trouve un petit peu sa place là où il y en a, quoi.
Alors Jimmy, on va s'intéresser au frigo aujourd'hui. Vous êtes médecin, on peut se demander quel est le rapport avec la santé. Mais oui, l'hygiène du frigo est primordiale pour rester en forme.
Bah oui, c'est essentiel de nettoyer son frigo. Un frigo sale entraîne forcément la prolifération de microbes, de bactéries, même de moisissures. Et donc, pour votre santé, on peut imaginer que si votre frigo est plein de bactéries, bonjour, les indigestions, les intoxications alimentaires et autres désagréments.
Très bien. Alors, à quel rythme, dans l'idéal, il faudrait le nettoyer? Vous avez une idée, Jimmy? Vous faites quoi chez vous?
Dans un monde parfait, il faudrait le nettoyer toutes les 2 semaines. Et si vous n'avez pas forcément le temps...
Le monde parfait, mais la vraie vie, alors.
La vraie vie, bon, au moins une fois par mois, ce qui est déjà énorme.
Moi, j'allais dire une fois par an.
Non, c'est honteux.
Moi, je le fais une fois par an. J'assume.
Alors, vous avez compris, Benjamin Lévesque nous a rejoint, parce qu'on va s'arrêter là avec Jimmy pour les conseils de nettoyage. C'est pas vraiment ce que vous avez appris dans vos études de médecine. Hein. Donc, on a fait appel à vous, Benjamin.
La fédélogie.
Voilà. La pédologie, après une enquête approfondie, comment on nettoie très concrètement son réfrigérateur, avec quel produit?
Alors la règle numéro 1, on n'utilise pas d'eau de Javel, hein, c'est trop nocif pour la santé. Le mieux, c'est d'utiliser des solutions naturelles. Alors je vous donne ma recette de grand-mère.
Je suis curieuse, vas-y.
Moi, c'est du vinaigre blanc avec du citron, avec une éponge. Mais si vous avez de l'eau savonneuse et une éponge, ça fera l'affaire. Et surtout, pas oublier de rincer et de sécher après.
Très bien. Alors, mais moi, je vous donne la mienne aussi. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude. Jimmy, vous nous donnerez la vôtre après. Moi, je mets 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans 40 centilitres d'eau tiède. Et puis là, pareil, on frotte. En plus, ça enlève les mauvaises odeurs. Benjamin, il y a le dégivrage aussi qui est important pour notre. Qui est un geste santé d'une certaine façon du frigo.
Bah oui, parce qu'un frigo avec plein de givre au fond, c'est un frigo qui fonctionnera moins bien et risque de moins bien conserver vos aliments. Et donc, toujours les mêmes risques avec des bactéries, etc. Ouais. Alors, en gros, après avoir vidé votre frigo et l'avoir débranché, parce qu'il y a l'électricité et de l'eau, donc ça peut faire pas un bon ménage.
Il a bien bossé, hein.
Eh bien, vous laissez fondre la glace, mais bien sûr, on n'a pas toute la journée, donc vous pouvez mettre un récipient d'eau bouillante dans le frigo, okay. Ça va accélérer ce dégivrage.
D'accord.
Et puis, après cette étape, eh bien, vous pouvez aider d'une spatule en plastique ou en bois pour retirer ces plaques de glace ramollie.
Merci Benjamin. Alors, pour être certain que nos aliments frais sont bien conservés et ne vont pas nous rendre malades, on ne sait pas toujours ça, mais il y a une façon de bien les ranger.
Il y a des règles.
rapidement.
Il y a des règles, effectivement. Dans le bas du frigo, il y a un petit bac. Ça, c'est pour tout ce qui est fruits et légumes. La température, elle est entre 6 et 8 degrés. Parce que sinon,
c'est là où c'est plus chaud, finalement.
Voilà, sinon d'accord. Les tomates givrées, c'est pas très bon. Ensuite, dans la partie centrale, là, c'est la zone fraîche. C'est tout ce qui est plat cuisiné, les restes. En fait, tout ce que vous avez, les pâtisseries. Et ensuite, dans la partie la plus haute, là, c'est très, très froid. C'est l'article. Là, c'est tout ce qui est à risque. Donc, la viande, le poisson, les crèmeries, la température entre 0 et 4 degrés. Au niveau de la porte, forcément, c'est les bouteilles, les œufs et le beurre.
Ça vous fait plus chaud, donc les trucs qui craignent pas, les condiments aussi.
Et puis, pensez à bien contrôler la température de votre frigo.
Eh oui.
Ça doit être entre 1 et 4 degrés. Parce qu'au-dessus, c'est la température idéale pour la croissance des salmonelles.
Et ça, on n'aime pas du tout, les salmonelles.
Non, franchement, je suis content d'avoir laissé la main sur cette chronique. Là, bravo, Benjamin, on a fait du logis, on a fait du frigo.
Il a terminé sur une note vraiment salmonelle en plus. Hein, parce que c'est ça qu'on redoute finalement. Allez, merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces conseils pratiques, importants pour rester en bonne santé.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car on va se retrouver pour la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, ce sera après un peu de musique, George Michael en duo avec Mary J. Blige avec le morceau As.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As
fait du bien un peu de musique sur Europe 1. C'était George Michael avec Mary J. Blige et leur tube As.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, la sexo et l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h et jusqu'à 16h, bien sûr, avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors pour cette dernière séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer cette semaine avec cette question au 39-21 de Maxime, 24 ans. On l'écoute.
Bonjour Catherine, je vous appelle parce que moi j'ai une petite question. Alors je vous explique, je me masturbe quotidiennement, tous les jours, c'est vraiment devenu une addiction. Le seul souci, c'est que je prends vraiment du plaisir. Tellement que c'est devenu banal, je me masturbe sans forcément de plaisir. Et c'est vrai que je me pose la question de savoir est-ce que ça peut revenir un vrai plaisir à moi tout seul. J'attends vos réponses sur le sujet. Belle journée, au revoir.
Catherine, est-ce que la masturbation donc, peut devenir une addiction? C'est ça finalement la question, un geste dont certains ne peuvent pas se passer, oui c'est ça?
Absolument. Encore une fois, ce n'est pas la masturbation qui est à remettre en question. C'est ce qui se joue à cette occasion. C'est-à-dire que finalement, c'est un acte sexuel où on est moins dans la créativité que dans la répétition, parce qu'on a trouvé le truc qui amène immédiatement, le plus rapidement possible, à une excitation forte et à une éjaculation.
Là, ça devient comme il se brosse les dents. Il dit presque tous les jours, quasiment. Hein, et, donc, et en plus, sans aucun plaisir. Donc,
et comme ça fait une décharge hormonale de jouissance au niveau du cerveau, bien évidemment, du coup, il y a le cerveau réclame une répétition. Et comme ça se fait de façon presque irréfléchie, presque subissant, en fait, la situation, elle est banalisée, mais elle est nécessaire, un peu comme un sas de décompression,
Des gens qui vont courir comme ça pour décharger tous les jours, faire des gros footings, ça pourrait être un peu la même chose,
oui,
non?
Oui, encore que là, il faut quand même un minimum d'effort, qu'on peut
c'est
sortir.
Un peu plus fatigant que la masturbation, peut-être.
Vous savez, c'est un peu toute l'ambivalence. C'est un peu comme le fumeur qui vous dit que c'est sa bouffée d'oxygène, alors que c'est tout sauf une bouffée d'oxygène. Ouais. Et bien là, c'est tout d'un coup, c'est une soi-disant excitation, mais qui perd de son excitation, qui perd de sa créativité, qui se perd de sa jouissance, comme il le décrit très bien. C'est-à-dire, je suis complètement dans la répétition. Et l'addiction n'est jamais plaisir, puisque le cerveau cherche le circuit de récompense, le premier plaisir ressenti. Mais comme il n'y a aucune créativité et qu'il y a une répétition, le plaisir ressenti est toujours en deçà. Et du coup, frustrant, je vais rechercher à nouveau.
Recommencer pour essayer de faire plus de plaisir,
et
ça
puis je n'y
pas.
Arrive pas parce que je ne crée rien de nouveau.
Mais là, Catherine, il dit qu'il se masturbe presque tous les jours. C'est pas non plus tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça
c'est,
pas, non
c'est
plus...
pas si grave.
Non,
dire
c'est pas
Jimmy.
Si grave presque tous les jours. S'il m'avait dit 4 fois par jour.
C'est que ça lui pose problème. Donc
En tout cas, elle est banalisée.
S'il avait dit combien, ça aurait été plus.
Je sais pas, à partir de. Je sais pas, je vais vous donner un chiffre. Au-delà de
2 fois par jour. Là.
Plus d'une fois par jour strictement, je pense que c'est peut-être problématique. Surtout qu'il dit ne pas prendre de plaisir. Alors comment est-ce qu'on fait pour se masturber sans plaisir? Parce qu'il faut avoir, un endroit où on peut se masturber, 2, quand même un peu de stimulation, une érection et une éjaculation. Et malgré ça, on ne prend pas de plaisir?
Bah oui, parce que toutes les éjaculations ne sont pas nécessairement l'expression d'un grand plaisir. Et puis, encore une fois, tout ce décorum... alors, moi, je dirais que l'addiction, ce n'est pas nécessairement parce que c'est tous les jours. C'est la forme, en fait, décevante. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher de le faire, malgré le fait que, de toute façon, je n'y trouve pas ce que j'allais y chercher initialement. Donc, évidemment qu'on ne va pas se mettre à juger l'envie de se masturber, y compris dans la régularité.
Oui, c'est moins nocif que de fumer, quand même, de se masturber.
C'est même pas,
donc,
c'est
voilà,
pas,
ça
c'est
pas,
même pas
dire,
nocif
voilà.
Du tout.
Peut-être c'est... psychologiquement, là, ça a l'air de lui poser problème.
Voilà, c'est d'un point de vue psychologique. Et puis, l'enfermement par rapport à, effectivement, comme le dit Jimmy, trouver le lieu où je suis tranquille pour le faire ça. Aller vite, vite, et obtenir ce que je veux, c'est-à-dire cette décharge à défaut de jouissance ou d'orgasme.
D'ailleurs, il ne demande pas à arrêter. Il dit comment je peux faire pour que ça redevienne un plaisir.
Oui, parce que là, il y a. Alors, moi, par exemple, j'entends des patients me dire que ça n'est pas un plaisir puisque c'est la culpabilité, ou d'autres dire c'est un épuisement. C'est-à-dire qu'il y a, une telle inquiétude psychique que finalement, ce n'est pas source d'énergie, ce n'est pas source de jubilation, ce n'est pas source de liberté.
Et alors, comment faire pour revenir à ça, justement ?
Eh bien, pour revenir à ça, déjà,
consulter,
il faut être...
peut-être.
Alors, avant, bien sûr, pourquoi pas consulter, mais déjà se dire à quel moment, en le faisant, je n'y suis pas. C'est-à-dire, je le fais de façon mécanique, mais je n'y suis pas. C'est-à-dire, je suis mon corps et mon sexe est devenu l'objet d'une obsession et je ne suis pas en train de chercher à me faire du bien. Et donc, changer le mode de pratique, changer les rythmes et le cas échéant, essayer de voir pourquoi et dans quoi je me suis enfermée ou si je me suis enfermée là-dedans, c'est pour me protéger de quoi d'autre ? Parce que souvent, la masturbation dans ce cadre-là, c'est pour se protéger de son agressivité qui nous font peur, donc j'ai besoin d'éjaculer, ou de me protéger d'une relation avec quelqu'un d'autre, ou me protéger, vous voyez, c'est parfois...
Comprendre, en tout
voilà.
cas.
Donc effectivement, dans ce cadre-là, c'est intéressant d'essayer d'y réfléchir un petit peu.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Oh, vous êtes... C'est des femmes en colère, là.
Les femmes en colère, très en colère. Oh. En colère même manifeste, ces femmes.
Exactement, parce qu'elles ont publié des manifestes. Mina Loy, par exemple, c'est incroyable. On la connaît peu. Et bien justement, on va vous révéler qui elle était. Et puis Valérie Solanas.
Oh, elle l'a tirée.
Elle a tiré sur Andy Warhol.
Sur Andy Warhol.
Enfin, elle ne l'a pas tué, quand même.
Heureusement.
Hein.
Mais elle voulait.
Et vous avez une femme que vous aimez, qui est une grande féministe.
C'est une féministe qui, en plus, est une grande écrivaine ou un grand écrivain. Vous choisirez.
Autrice,
elle choisira.
Si vous voulez
une
pas...
autrice, c'est Virginie Despentes. Hein, c'est un peu la grande féministe contemporaine. Mmh. Évidemment, je brosserai son portrait à 99%.
Celle qui a écrit Baise-moi, c'est ça.
Elle a écrit Baise-moi. Effectivement, c'est évidemment le seul livre d'elle que vous avez lu.
Oui, bah, ça m'a confessé.
Très bien. Mais écoutez, on sera avec vous cet après-midi, bien sûr, qu'on soit en colère ou pas. On vous écoute tous les jours de 16h à 18h. Et vous aussi, restez sur Europe 1.